Bonjour à tous. C'est toujours une grande joie pour moi de vous revoir à chaque fois. Et je vous remercie de m'avoir invité pour partager avec vous le message que Dieu a placé sur mon cœur ce matin. Alors, qui je pourrais nommer pour me calmer si je vais trop vite? Ah tiens, Benoît ce matin. Benoît, si tu vois que j'accélère un peu trop, tu lèves la main et je comprendrai que je vais un petit peu trop vite. J'ai quand même ralenti, non? Depuis des années. Parce qu'il y en a qui me disent même que quand ils me rencontrent, qu'ils m'entendent parler, qu'ils me prennent pour un Français. Donc, ça veut dire que j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. Ce matin, on ne fera pas de la haute voltige spirituelle, mais un message que Dieu a placé sur mon cœur dans l'Évangile de Marc. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc. Et avant de lire ce passage, j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous des personnages qui se retrouvent dans toutes les paraboles enseignées par Jésus, ainsi que dans les miracles qu'il a accomplis. Ici, dans l'exemple que nous allons lire au chapitre 4, eh bien, le bateau représente notre vie. Les disciples, eh bien, c'est nous, c'est vous et moi. Et la mer, ça représente les tempêtes auxquelles nous avons à faire face tout au long de notre vie. Chers amis, que faites-vous quand vous êtes pris dans une tempête? Que faites-vous quand vous vivez des épreuves difficiles? Que faites-vous quand vous êtes en plein milieu de la tempête, et non seulement quand vous êtes pris dans la tempête, mais que vous ne trouvez pas d'issue pour vous en sortir? Quel est votre premier réflexe? Vers qui vous tournez-vous? C'est intéressant, on est dans un monde qui tourne toujours vers la science, qui remet toujours d'ailleurs en question ses théories, mais vers qui vous tournez-vous? Vers qui nous tournons-nous quand on vit des moments difficiles? Eh bien, c'est à travers ce message ce matin, j'aimerais vous partager trois choses qu'il est important de vous rappeler, trois choses que j'essaye régulièrement et quotidiennement de me rappeler. La première, c'est de se rappeler des promesses de Jésus. Les promesses de Jésus, elles sont sûres et certaines. La manière dont commence cette histoire est toute simple et la façon dont elle va se dérouler constitue un véritable miracle en soi. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre cette histoire si nous ne nous saisissons pas ce qui s'est vraiment passé. Et on va lire les versets 20, je vais mettre mes lunettes. J'essaie de rester jeune, mais mes yeux me disent que... Voilà. Alors, à partir du verset 35 à 41. Alors, c'est pas un passage extraordinaire, hein, mais il est quand même dans la Bible, donc on doit en prendre considération. Mais c'est des histoires qu'on raconte aux enfants. Et étant donné que, en vous connaissant de plus en plus à chaque fois que je viens, bien, je m'aperçois que vous restez d'éternels enfants. Donc, j'ai choisi, le Seigneur a mis à mon cœur ce message ce matin. Je vais la lire en français courant. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques encore étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus était en arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors et lui dirent, « Maître, nous allons mourir, ça ne te fait rien! » Jésus se réveilla, il parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi! » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de la foi? Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de la foi? Pourquoi avons-nous peur? N'avons-nous pas encore de la foi, frères et sœurs? » Mais ils étaient très effrayés et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent? » Il est plus facile souvent que l'eau du lac et même le vent obéissent au Seigneur que nous-mêmes, nous nous dépêchions à lui obéir. Et Dieu, dans sa grâce, quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt, malgré nos manquements, malgré des fois nos égarements, le Seigneur, lui, garde son regard sur nous, n'attendant qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui. Et souvent, quand il m'arrive qu'il n'est pas, quand il m'est arrivé dans le passé que j'étais pas le premier, qu'il n'était pas le premier dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu continues à t'occuper de moi? Et la réponse qui touchait de plein front mon cœur, c'était parce que je t'aime. Parce que je t'aime. C'est la seule raison. Parce que ma grâce, elle est éternelle. Parce que je t'aime. Mon amour, il est éternel. C'est ce qu'il dit à Jérémie. On a lu dans le livre de Jérémie tantôt. Il a dit à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que ça n'a jamais commencé et ça ne se terminera jamais. Le temps ne compte pas pour Dieu. Et ce matin, dans ce passage, il n'y a pas beaucoup de versets. Marc écrit le soir de ce même jour. Maintenant que le soleil se couche, il va commencer à faire noir. Et Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Jésus ne fait pas ici une simple affirmation, frères et sœurs, mais plutôt une promesse qui était aussi une prédiction. Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Il n'a pas dit, espérons que nous réussirons à nous rendre de l'autre côté du lac. Il n'a pas dit, commençons par naviguer et nous verrons ce qui va se passer. Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Frères et sœurs, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose s'il ne nous donne pas le pouvoir de le faire. Si les disciples avaient saisi au moment même les paroles que Jésus venait de prononcer et à quel endroit il les avait prononcées en disant « Passons de l'autre côté du lac », ils auraient compris qu'il était absolument impossible que cette barque ne se rende pas de l'autre côté du lac. Comment pouvons-nous être certains de ça? Parce que c'est Jésus. Parce que Jésus n'a jamais prophétisé quoi que ce soit qui ne se soit jamais réalisé, qui ne se soit pas réalisé. Jésus n'a jamais fait une promesse qu'il ne pourrait pas tenir. Et au moment où Jésus dit « Passons de l'autre côté du lac », cette barque, elle était devenue insubmersible, frères et sœurs. Moi, ça m'a, en méditant le texte, je me suis dit, si Jésus a dit qu'on allait aller de l'autre côté du lac, peu importe que l'armée romaine soit venue avec des galères, avec n'importe quoi, cette barque, elle devait se rendre de l'autre côté du lac, parce que Jésus l'avait dit, elle se rendrait de l'autre côté du lac. Frères et sœurs, il en est de même pour nous. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a fait de nous non seulement ses enfants, il a fait aussi de nous ses héritiers. Et si vous lisez les deux derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, et des fois, il y a des chrétiens qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternité? Est-ce qu'on va se croiser les bras? Est-ce qu'on ne fera rien de l'autre côté? Ah non. Le Seigneur, il n'a pas dit qu'on serait tous des assistés sociaux dans la nouvelle terre et sur les nouveaux cieux. Il a dit simplement ceci, on va régner avec Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, je ne veux pas vous perturber, puis je ne veux pas rentrer dans des doctrines, mais les nations, et là on est sur la nouvelle terre, et les nouveaux cieux, les nations vont rentrer dans la Jérusalem de jour. Ils vont se retirer le soir et les enfants de Dieu demeurent dans la Nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus de nuit parce que la gloire de Dieu va éclairer son peuple. Mais moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que les nations viennent faire dans ça puisqu'il y a eu un jugement, tout est disparu? C'est intéressant, heureusement que Dieu ne nous a pas tout révélé, mais c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas appelé à ne rien faire pendant toute l'éternité, mais on est appelé à régner avec Dieu, qui va siéger au milieu de son peuple dans la Nouvelle Jérusalem. On est appelé à régner avec lui. Frères et sœurs, c'est extraordinaire, c'est une promesse que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. C'est extraordinaire ce qui vous attend. C'est extraordinaire ce qui m'attend. Et vous savez, le jeu du malin, c'est simplement de nous faire peur pour nous faire oublier où nous avons placé notre foi, comme il le fait avec les disciples. C'est l'argument que le malin cherche à utiliser, parce que quand il nous fait peur, il ouvre son outil et il vous donne le découragement. Et le découragement, c'est le meilleur outil que le diable sort de son coffre, c'est le seul à peu près qu'il utilise, parce qu'il sait que quand on est découragé, on perd de vue les promesses que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire qu'à partir du moment où Jésus a prononcé ces paroles, eh bien, cette barque, il n'y avait pas autre chose que cette barque. On était certain que cette barque se rendrait de l'autre côté. On aurait pu traiter Jésus de menteur parce qu'il avait dit qu'il passerait de l'autre côté du lac, mais mais Jésus avait dit, cette barque, elle va passer de l'autre côté du lac, elle va passer de l'autre côté du lac. Frères et sœurs, le soleil peut cesser de briller. Le jour, la lune peut cesser d'éclairer. Le ciel, pendant la nuit, les étoiles peuvent cesser de scintiller. Le vent peut cesser de souffler et les vagues peuvent cesser de venir se fracasser sur les rochers. Toutes ces choses peuvent arriver, mais une chose est certaine, Jésus ne mentira jamais parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Jésus dit que quelque chose va arriver, vous pouvez être certain que ça va arriver. Et frères et sœurs, je ne suis pas un apocalypticien, mais quand vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est un message d'encouragement que j'aimerais vous donner. On vit peut-être les dernières prophéties qui se trouvent dans la parole de Dieu. Il y en a une bonne, moi, que je tiens à cœur, c'est que Dieu dit qu'à la fin des temps, juste avant le retour de Jésus, il va rassembler toutes les nations autour d'Israël. Et je ne suis pas pro-israélite, hein? J'ai déjà essayé d'être pro-Église, mais je sais ce que Israël représente aux yeux de Dieu, mais les Chinois sont là, les Russes sont là, les Américains sont là, les Anglais sont là, les Iraniens sont là, les Turcs sont là. Dieu, ils sont en train d'accomplir, dans leur folie, ces grands mais orgueilleux de ce monde sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. ils sont en train parfaitement d'accomplir le plan de Dieu, frères et sœurs. Alors, c'est extraordinaire parce que vous êtes peut-être, et je fais peut-être partie de la dernière génération de chrétiens qui verront peut-être le retour de Jésus-Christ. Et le Seigneur, il ne nous demande pas, il nous dit pas qu'il va faire une préférence pour telle ou telle dénomination. Il nous a simplement dit avant de partir, « Soyez prêts, parce que vous ne connaissez pas le jour ni l'heure que je vais revenir. » Frères et sœurs, est-ce qu'on est tous prêts à voir revenir le Seigneur Jésus au milieu de nous ce matin? Est-ce que notre vie glorifie vraiment le Seigneur, pas simplement le dimanche, mais chaque jour de la semaine? Si le Seigneur ne revenait pas le dimanche matin pendant le culte, est-ce qu'on serait capable de le regarder face à face et de dire, « Seigneur, prends-moi. » Si vous êtes si vous êtes en pleine tempête ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Souvenez-vous de la promesse de Jésus. Voici ce que Jésus veut nous dire à nous tous ce matin. Si vous êtes en pleine tempête, vous pouvez compter sur moi. Je vous promets que nous la traverserons ensemble et que nous nous rendrons ensemble de l'autre côté. Que devons-nous faire quand nous sommes pris dans une tempête, frères et sœurs? Premièrement, nous rappeler de la promesse que Jésus nous a faite, qu'il sera avec nous tous les jours, et ça jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, nous rappeler que nous pouvons compter sur la présence de Jésus. Amen! Mais on va voir au verset 36. On va voir à quel point chaque petit détail est important dans cette histoire. Il est écrit, après avoir renvoyé la foule, les disciples amenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques autour de lui. Tiens, moi, c'est en lisant Marc que je me suis aperçu qu'il y avait d'autres barques autour de la barque dans laquelle il se trouvait. Matthieu et Luc racontent la même histoire, mais en omettant de mentionner qu'il y avait plusieurs barques autour de Jésus. La question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi Marc tenait-il à ce que nous sachions que cette barque dans laquelle se trouvait Jésus n'était pas la seule barque sur la mer de Galilée ce soir-là. Frères et sœurs, si nous réfléchissons bien, si Marc ne l'avait pas écrit, premièrement, cela n'aurait rien changé au miracle qui se trouvait sur l'eau ce soir-là. Qui n'a rien changé au miracle que Jésus allait accomplir, ce soir-là, et ça n'a rien changé à l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle différence il y a entre cette barque et toutes les autres barques qui se trouvaient sur l'eau ce soir-là? Est-ce que quelqu'un peut oser essayer de se... quelle différence qu'il y avait entre cette barque et toutes les autres barques qui se trouvaient sur l'eau ce soir-là? Qui veut s'essayer? Ah, merveilleux! On n'a pas le droit d'applaudir ici, oui. Mais on peut rendre gloire à Dieu qui a transmis cette message. Oui, parce que Jésus était dans la barque. C'est la seule différence par rapport à toutes les autres barques. Frères et sœurs, quelle différence y a-t-il entre vous et tous les gens qui vivent dans ce monde ce matin? Si vous êtes nés de nouveau, c'est que Jésus est avec vous et cela fait toute la différence. Toute la différence! Frères et sœurs, un des grands avantages que nous obtenons lorsque nous devenons un enfant de Dieu, c'est que Jésus monte dans la barque de votre vie en disant, « Nous traverserons ensemble les tempêtes de votre vie et je vous promets qu'on arrivera ensemble de l'autre côté. Sois assuré, je ne quitterai jamais ton bateau. Il est possible que nous traversions des mers agitées, des eaux houleuses ou de grandes tempêtes, mais rappelons-nous que Jésus promet, frères et sœurs, d'être toujours avec nous dans la barque de notre vie. » Tout à coup, quelque chose, verset 37, tout à coup, quelque chose produit que personne parmi les disciples ne s'attendait à vivre. Il est écrit, « Il s'éleva un grand tourbillon au point où les vagues se jetaient dans la barque et qu'elle se remplissait déjà. » Et dans le récit que donne Matthieu de cette histoire, il utilise un mot totalement différent de celui de Marc. Voici ce qu'il écrit, c'est bien qu'on le voit dans le grec. Il dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, Jésus, il dormait. » J'aimerais vous dire pourquoi nous devons être attentifs à ce que Matthieu écrit ici. C'est parce que ce jour-là, Marc n'était pas dans la barque. Marc a écrit ce que Pierre lui a révélé de cet incident. Luc, qui était médecin, n'était pas non plus dans la barque ce jour-là. C'est grâce à ses recherches qu'il a découvert ce qui s'est passé. Mais Matthieu était dans la barque ce jour-là. Ce qui s'est passé, Matthieu va raconter donc tout ce qu'il a vu. Et il va dire que ce n'était pas simplement une tempête qui s'était élevée, mais il va utiliser un mot grec, le mot « séismos », c'est-à-dire un séisme. Et on pourrait dire qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a une forme de tsunami qui est arrivée sur ce lac et qui finalement a fait en sorte que des pêcheurs expérimentés comme Pierre et Durès sont restés bouche bée devant cette tempête extraordinaire, cette tempête unique. J'imagine la barque, comment elle pouvait se promener. Les vagues venaient une derrière l'autre à atterrir dans la barque. C'était une tempête qui aurait pu déchirer ce bateau comme on déchire une simple boîte de carton. Certains de ces hommes étaient des pêcheurs expérimentés, comme j'ai dit, et ils avaient tous peur, nous dit le texte. Et la raison pour laquelle ils avaient si peur, c'est qu'ils avaient déjà traversé des tempêtes dans le passé, mais ils n'avaient jamais eu à affronter une tempête de cette ampleur. Et cette tempête n'avait rien à voir avec celle qu'ils avaient connue. Alors, probablement qu'à travers eux, parmi ceux qui étaient sur le bateau, il y en a qui se sont dit, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais vivant. C'est une tempête qui risque carrément de nous tuer. Il y avait quand même une question qu'on peut se poser ici. Pourquoi avoir choisi de traverser cette mer au moment où il commençait à faire noir? C'est une bonne question à se poser, non? Le texte nous dit que c'est à la fin du jour, il commence à faire noir. Pour commencer, que faisait-il au milieu de cette mer? Nous avons vu que l'idée ne venait pas d'eux. Je suis à peu près certain que lorsque Jésus leur a demandé d'embarquer dans cette barque pour se rendre de l'autre côté à une heure sûre, à si tardive, Pierre, qui était un pêcheur de métier et qui avait l'habitude de ne pas avoir la langue dans sa poche et de donner tout le temps son avis, eh bien, n'a rien dit. Je suis convaincu que ça doit y avoir tenté de dire à Jésus, « Mais Jésus, tu es peut-être fatigué, quoi, ça ne va pas, quoi. Moi, je suis pêcheur, toi, tu ne l'es pas. Nous, on est des gars de métier. On ne se risquerait pas d'aller sur cette mer, la mer des Galilées, sur cette mer de nuit. » Et pourtant, il ne va rien dire. Il va simplement se rappeler que Jésus a dit, « Passons de l'autre côté. » C'était finalement un commandement. On s'en va de l'autre côté en voulant dire, « Bien, vous n'avez rien à dire. » Frères et sœurs, si les apôtres se retrouvaient en plein milieu d'une tempête, ils n'avaient rien fait pour que cela leur arrive. L'idée venait de Jésus. Et frères et sœurs, il peut arriver que lorsque nous nous retrouvons dans une tempête de nos vies, que nous nous disions nous-mêmes, « C'est bon, je l'ai probablement cherché. » J'ai sûrement fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Et de toute évidence, j'ai fait quelque chose de mal et maintenant le Seigneur me punit. Il y a peut-être des gens dans la salle ce matin, quand il leur arrive une épreuve, quand il leur arrive quelque chose de difficile, que la première chose à laquelle ils pensent, c'est de ma faute, j'ai sûrement fait quelque chose de mal. Ça arrivait déjà à quelqu'un, ça. Bon, moi, je me lève la main. Je vais m'enlever les deux mains en plus. J'ai pas besoin d'un fusil un matin pour me faire lever les deux mains. Exactement, ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé. Mais combien de fois est-il arrivé de penser ainsi lorsque vous êtes retrouvé en pleine tempête? Oh Seigneur, je savais que tu... Je vous donner un exemple. Une des, entre autres, qui m'était arrivée. Moi, je vous ai déjà raconté mon témoignage, disons à moitié, parce que c'était un culte du dimanche matin. Mais je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, moi, je fouillais dans le pantalon de mon père et que je prenais quelques sous. Ça m'arrivait. La Bible appelle ça voler. Bon, voilà. Je voulais avoir des chics et mon père travaillait de nuit, donc on se croisait et il avait déjà accroché son pantalon, il était allé se coucher. Moi, pour sortir, je fouillais dans la poche avant d'aller à l'école pour aller acheter des chics en me rendant à l'école. Et c'est bizarre, ça m'est revenu en tête à un moment donné, j'y vais des moments difficiles et je me suis dit, tiens, quand je me suis converti, je n'ai pas confessé ce péché-là. Peut-être pour ça que je vis des moments difficiles. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Je ne sais pas jusqu'à quel âge vous vous souvenez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle d'avoir commis un péché avant l'âge de 5 ans? Oui, ne levez pas trop vos mains, mais moi, je fais partie des rares, malheureusement. Oui. Vous savez, il y a un message de Charles Finney qui dit, quand on vient se convertir, une des bonnes conversions, une des bonnes repentances pour notre péché, il dit, si on a eu le courage de confesser nos... Il dit que si on a eu le courage de désobéir à Dieu ou de commettre des péchés un par un, quand on vient au Seigneur, on doit avoir le courage de les confesser un par un. On a des systèmes de repentance aujourd'hui qui sont d'une simplicité à faire tomber un chat par terre. On demande aux gens, d'abord c'est très rare qu'on utilise le mot repentance aujourd'hui, mais on demande aux gens de se convertir. Puis on dit, écoute, ceux qui ont commis des péchés, tu as commis des péchés, confesse-les à Dieu. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai déjà vécu une expérience avec quelqu'un qui ne savait même pas quel péché confesser. On était convaincus qu'il était né de nouveau, quoi. Et je trouve ça bien que Charles Finney dit, écoute, tu as eu le culot de commettre tes péchés un par un, Aie le courage de les confesser un par un. Et tu risques de t'apercevoir que, surtout à 70 ans, si je me convertis à 70 ans, que la liste peut être très, très longue. Ça comprend nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Ça nous amène à une véritable repentance. Ça nous amène à réaliser la grâce que Dieu nous fait. Ça nous amène à réaliser que Dieu n'est pas obligé de nous faire grâce. Mais qu'il le fait par amour. Dans sa bonté, Dieu nous fait grâce. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa grâce, elle va nous accompagner pour tout le temps. Il ne changera pas d'idée. Vous imaginez si on avait un Dieu qui change d'idée, on est sauvé aujourd'hui, on arrive au ciel. Ouais, mais sais-tu, mais vraiment déçu, hein? Je te retire ma grâce. Hey, on paniquerait, n'est-ce pas? Mais on a un Dieu qui ne change pas. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Après ça, même encore aujourd'hui, on est chrétien, on est enfant de Dieu. Combien de fois il nous arrive de dire des choses de travers avec notre langue, hein? Ce petit gouvernail qui est difficile à gérer, hein, que Jacques dit qu'on ne réussit même pas parfaitement à gouverner dans nos vies. Vous savez, il y a quelqu'un à un moment donné qui a parlé en mal de moi à quelqu'un d'autre et qui est allé voir ce quelqu'un d'autre parce qu'il était, j'étais pas au courant, mais il s'est fait découvert, alors il était coincé, il est allé demander pardon à l'autre d'avoir mal parlé, d'avoir dit des choses qui n'étaient pas correctes. Mais vous savez, c'est de faire un pas, de dire à l'autre, écoute, je te demande pardon parce que j'ai médit sur mon frère. Mais il faut quand même aller voir notre frère aussi, à qui on a parlé en mal, pour lui dire, écoute, je te demande pardon parce que j'ai sali ta réputation. Pourquoi si je le fais pas? Parce que si la personne en a parlé à 10-15 dans l'église, qu'elle a médit sur mon frère, qu'elle a sali sa réputation, moi je rentre dans l'église le dimanche matin, je suis pas au courant. Il y a des gens qui me regardent de travers. Pourquoi si les gens me regardent de travers? Je me pose des questions. Je me dis, mes frères ne m'aiment pas, ils m'aiment moins. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui salit ma réputation. Et c'est important que quand on commet un péché avec notre bouche, on doit quand même aller confesser, non seulement demander pardon à ceux à qui on le fait, mais aussi aller voir la personne qui est derrière ça, finalement, qui est la victime de mon péché, pour lui dire, écoute, j'essaie de réparer ce que j'ai fait. J'essaie de réparer contre toi, pour toi, tout ce que j'ai fait de mal, et afin de rétablir l'ordre dans l'Église. C'est important. Je sais que j'étais jeune converti et je présidais, ça c'était pire, hein, je présidais le culte, et durant la semaine, j'avais commencé à juger mes frères et sœurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu rentres dans une église, puis bon, tu trouves ton église pas spirituelle, hein, ça a déjà arrivé ça. Hein. Ouais, ils sont tous morts et tout ça, hein, et moi, je ne l'ai pas dit par contre, hein, Et le dimanche, vous savez, vous arrivez, vous avez jugé votre assemblée toute la semaine et vous devez venir présider dimanche matin. Et notre cravate commence à être serrée, hein? Et j'ai demandé au pasteur avant le culte, je lui ai dit, écoute, il faut que je m'adresse à l'assemblée. Il dit, je ne serai pas capable de présider. Et là, je l'ai vu, il était assis dans le coin, il devait prier fort, hein? Et j'ai dit, frères et sœurs, je tiens à vous demander pardon parce que je vous ai jugé durant la semaine. Je vous ai jugé en pensant que vous étiez mort spirituellement, que vous alliez nulle part, que vous ne viviez pas la vie que vous deviez vivre en Christ. Et je vous demande pardon. Et là, j'ai pu présider le culte, comme le Seigneur me l'a demandé. Frères et sœurs, c'est important de confesser, non seulement nos péchés à Dieu qu'on ne voit pas, mais surtout d'aller confesser à notre frère ou à notre sœur qu'on voit. Un péché qu'on a peut-être commis contre lui. Ça tisse des liens extrêmement forts, non seulement avec Dieu, mais surtout avec nos frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs, les disciples ne se retrouvaient pas au beau milieu d'une tempête parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, mais plutôt parce qu'ils avaient obéi au Seigneur Jésus, et ce, sans dire un mot. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas fait la volonté de Dieu qu'ils se retrouvaient au beau milieu de la tempête, mais parce qu'ils avaient fait la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, Paul et Silas ne se sont pas retrouvés en prison parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Paul et Silas se sont retrouvés en prison parce qu'ils avaient obéi au Seigneur. Et parce qu'ils étaient en prison et qu'ils avaient obéi au Seigneur, ils étaient capables de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Frères et sœurs, chaque épreuve qui nous arrive, la première chose qu'on fait, ce qu'on ressent, c'est le mal que ça nous fait. Mais on oublie que Dieu est derrière cette épreuve. On oublie que le but de cette épreuve, c'est non seulement de nous faire grandir, mais c'est d'amener Dieu à se glorifier à travers cette épreuve. Moi, je vous invite, c'est d'ici ce matin, à mémoriser par cœur Romains chapitre 8, verset 29. Le but de Dieu, c'est de vous amener et de m'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Après vous avoir sauvé, le but uniquement de Dieu, c'est de vous amener et de m'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, parce que la conséquence de ressembler à Jésus-Christ va faire en sorte que Dieu va être parfaitement glorifié à travers ses enfants, à travers son Église. Si vous vivez dans le péché et que Dieu tolère pendant un certain temps votre péché, parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous êtes né de nouveau, parce qu'il vous aime, vous allez passer par la fournaise. Mais le but, c'est pas de vous faire du mal, c'est de dire, « Hey, je t'aime. Viens-t'en, viens-t'en, donne-moi, prends ma main, prends ma main. Ce que tu fais là, ça ne me glorifie pas. Regarde comment tu vis dans ton milieu, dans ta maison durant la semaine. Ça ne me glorifie pas. Et si je ne te punis pas, si je ne vais pas te chercher, ça risque même d'empêcher tes enfants à prendre une décision pour moi. Parce que tu leur donnes le modèle de pas ce qui est un chrétien, mais ce qui n'est pas un chrétien. Et moi, je t'aime et je ne te lâcherai pas. Dieu t'emmène à ça. C'est vrai, hein? On ne réfléchit pas à ça, hein? Mais c'est vrai. On veut tout avoir dans la vie chrétienne, sauf les persécutions, sauf les épreuves. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Et les disciples ici, ils vont prendre une bonne leçon. Frères et sœurs, si Paul et Silas ne se sont pas retrouvés en prison parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur, mais plutôt parce qu'ils avaient fait la volonté du Seigneur, il en fut de même pour Jésus-Christ sur la croix. Qu'est-ce qui a amené Jésus à se rendre sur la croix? Il avait désobéi à Dieu? Non, il avait accompli parfaitement la volonté du Père. Et moi, je peux vous dire une chose, hein? Plus vous allez vous attacher à Dieu, plus vous allez être persécuté. C'est une promesse de la parole, il faut passer par beaucoup de persécutions pour entrer dans le royaume de Dieu. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas dit que c'était les gens de l'extérieur, il n'a pas dit... Il n'a pas parlé non plus que ça pouvait être les gens de l'intérieur. Mais vous voulez que je vous fasse une confidence ce matin? J'ai été plus persécuté. Même si je fais beaucoup d'évangélisation, j'ai été beaucoup plus persécuté par les chrétiens de l'intérieur de l'Église que par les gens du monde. Beaucoup plus. Il y a une deuxième chose que je réalise aujourd'hui. Il est beaucoup plus difficile. Vous savez, l'endroit où il est le plus difficile de parler du péché et de l'enfer, c'est pas dans le monde, c'est dans l'Église. On m'a déjà défendu, on m'a invité dans une Église, on m'a défendu de parler du retour de Jésus parce que ça traumatisait les gens, les membres de l'Église. Je vais dans le monde, on a fait une campagne, une semaine, à frapper aux portes, à rencontrer les gens sur la rue. C'est les gens qui nous parlent, qui sont dans le péché. Pas besoin de leur dire, ils nous en parlent. Proverbe chapitre 20, Dieu a donné une conscience à l'homme. Et Dieu parle à travers leur conscience. Les gens disent, « Ouais, mais je vais avec une femme qui n'est pas la mienne. Ouais, ouais, mais ben, je pense pas que moi, je fais partie de ceux que Dieu aimerait bien que je lui appartienne. Mais pourquoi pas? Ben, parce que je vis dans le péché. Je n'ai rien dit. On n'a pas besoin de leur dire, frères et sœurs. On n'a pas besoin. Vous savez ce qui manque à l'extérieur des chrétiens qui vont se lever pour aller simplement annoncer? Le message d'espoir qui sommeille dans leur cœur. On n'a pas besoin d'un cours de théologie pour aller dire aux gens que j'aimerais dire, moi j'ai rencontré quelqu'un un jour qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie. Tu veux-tu que je t'en parle? C'est quelqu'un d'unique. C'est le seul qui m'a jamais abandonné. C'est le seul que ce qu'il m'a promis, il n'a jamais laissé tomber ses promesses. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre derrière les portes. Nous, on se présente comme des chrétiens, on ne tourne pas autour du pot, hein? Bonjour, nous sommes des chrétiens de l'Église baptiste de Delain, nous sommes vos voisins et comme à chaque année, nous faisons une conférence et nous passons pour vous remettre un feuillet. Et sur le feuillet, cette année, c'était la Bible, est-ce qu'on peut encore y croire? Il faut le faire, aller distribuer ça dans les portes, hein? Eh bien, il y a eu 3 conversions cette année à la conférence. 3 belles conversions. Moi, je pars avec l'idée que derrière chaque porte, il y a un drame qui se joue. Une femme qui est peut-être abusée, un homme qui est peut-être abusé, un enfant qui est peut-être abusé, un problème peut-être d'alcool, un problème peut-être de drogue. Derrière chaque porte, il y a un drame. Moi, je pose la question et je leur dis « qu'est-ce que vous pensez? » Et là, on me donne une réponse. Je leur dis « qu'est-ce qui vous a amené à penser ça? » Et ça prend des questions ouvertes, n'est-ce pas? Et là, avant de partir, je leur dis « écoutez, et moi, je fais toujours comme si je ne voulais pas pousser dans la porte. Je ne suis pas un vendeur, hein? On n'est pas des vendeurs. » J'ai dit, écoutez, madame, excusez-moi, avant de partir, j'aimerais juste vous poser une question pour mes statistiques personnelles. Quelle est la plus grande souffrance qu'une personne peut vivre dans sa vie? Et là, vous venez de toucher sur une question personnelle, frères et sœurs. Hein? Combien de gens je vois pleurer la trahison? Ah, la trahison? Oui. Un homme qui dit qu'il va, rester avec toi toute ta vie et qu'il te laisse tomber pour une autre. Un autre, la trahison, c'est autre chose. Un autre, c'est le décès d'un enfant. Ah, et là, ça pleure. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette expérience? Oui, moi. Moi, je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Ça fait déjà 20 ans. Frères et sœurs, le monde, avec sa philosophie humaniste, n'a rien de bon à apporter aux gens qu'une fausse consolation. Les gens n'ont pas juste besoin d'être consolés, ils ont besoin d'être délivrés. Délivrés. Et c'est le mandat que Dieu vous a donné, c'est le mandat que Dieu m'a donné, c'est le mandat qu'il a donné aux disciples, aux apôtres après. Et ils vont aller proclamer ce message de délivrance. Et frères et sœurs, si vous honorez le Seigneur dans ce domaine-là, il va vous honorer. Je suis allé en camping l'année passée, et mon petit-fils, il y a quelqu'un qui vient s'installer une journée et demie, deux jours après qu'on soit arrivé, il vient s'installer de billets avec nous, avec sa tante. Et les deux petits-fils, ben, commencent à se parler. Alors, moi, je suis inquiet, je vais voir qui est le bonhomme et la bonne femme qui sont là, quoi. Hein? Et on commence à parler tout ça, et moi, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, c'est d'ouvrir une porte. Ah, il me dit qu'il est représentant français, qu'il est représentant, que sa femme est autrichienne, bon, on me raconte ça. Et il me dit, ben, tu sais, quand tu laisses le temps aux gens d'écouter, là, tu gagnes toujours le temps d'être écouté. Hein? Ouais. Nous, les évangéliques, on a tellement peur de se faire couper par une question qu'on n'est pas capable de répondre, qu'on leur déverse tout ce qu'on a à dire. Puis là, les gens, on les laisse, on se ramasse. Moi, je les laisse parler, puis après ça, je gagne le droit d'être écouté. Alors, quand j'ai su ce qu'il faisait, il m'a dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je suis pasteur. Ah, moi, je suis athée. Ah, là, c'est la meilleure porte pour moi, il est athée. Ah, merci. Mais moi, je crois en la résurrection des morts. Écoutez, c'est comme si j'avais reçu un coup de poing dans le front. En trois jours, ce gars-là, il a donné sa vie au Seigneur. Je l'ai conduit dans une église en France. La résurrection des morts. Lisez le livre des Actes. Les apôtres n'ont pas été persécutés parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ crucifié. Ils ont été prêchés. Ils ont été emprisonnés à cause de la résurrection, le message de la résurrection. Les pharisiens ont fait peur à Pierre et à l'autre apôtre avec lui. Vous n'avez pas d'affaire à parler de ça. Oui. Parce que la résurrection, ça veut dire que le diable a perdu tout pouvoir. Jésus, il a été enlevé les clés du séjour des morts. Il n'y a plus aucun pouvoir sur vous. Vous faites partie des ressuscités, frères et sœurs. Oui. Je n'ai pas commencé à y parler, à y donner un cours. Hein. Je dis, ben, tu sais, Jésus est venu sur la terre, il est venu... Moi, toi, tu crois que tu es athée, moi, je crois qu'on a la résurrection des morts. Paf, il voulait en savoir plus. Et il est venu au Seigneur. Là, j'ai pu lui parler de la crucifixion après. Hey, frères et sœurs, vous ne savez pas la puissance que vous avez entre les mains parce que Jésus habitera en vous. Faites juste essayer de vous amuser, essayer d'ouvrir des portes. Demandez aux gens une question ouverte, ce qu'ils font dans la vie, ainsi de suite. Frères et sœurs, et non seulement vous êtes obligés de rénover, vous êtes obligés d'agrandir. Le Seigneur va vous envoyer des gens. C'est magnifique. Magnifique. Nous avons un Dieu qui est bon. Un Dieu qui, malgré nos imperfections, veut nous utiliser pour la gloire de son royaume, pour l'avancement de son royaume. Frères et sœurs, vous vous retrouvez peut-être en plein milieu d'une tempête ce matin, et ce non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez bien agi. Et regardez ce que Jésus dit. Réjouissez-vous, soyez heureux, parce que Dieu est au courant et il a une grande récompense qui vous attend dans les cieux. Ça fait partie du sermon sur la montagne. Tu es persécuté pas parce que tu fais des mauvais coups, parce que tu proclames le royaume de Dieu, parce que tu montres que tu es chrétien. Réjouis-toi! Réjouis-toi! Premièrement, parce que c'est Dieu qui te permet. Et deuxièmement, pense à la récompense que tu vas avoir. Et le texte biblique ne dit pas que tu vas avoir une récompense, une grande récompense. Moi, ça me fait rire quand je fais du porte-à-porte. Ils entendent mon accent, ils me disent, « Vous n'êtes pas d'ici, vous. » Non, non, je n'ai pas d'ici. Non, non. Je n'ai sûrement pas d'ici avec l'accent que j'ai, hein. Et je leur dis, non, je viens du Canada. Mais qu'est-ce que vous faites ici dans la Belgique? Bien, vous savez, moi j'aime tellement le Seigneur Jésus que j'ai quitté mon pays pour venir annoncer l'Évangile aux Belges. Pas gêné, hein? Et ça tourne, hein? Ça tourne. Et la façon dont vous présentez au peuple, je n'ai jamais, jamais, personne m'a confondu avec des témoins de Jéhovah. Jamais. Jamais. Parce qu'en partant, on dit qu'on est chrétien. Il faut le dire aux gens. Il faut le dire. Chers amis, nous arrive de nous retrouver en pleine tempête et nous n'arrivons tout simplement pas à l'arrêter. Nous avons essayé de faire ce que nous pensions être bien. Nous n'étions pas obligés de le faire. Et nous nous sommes retrouvés dans le feu, dans la fournaise, pour avoir essayé. Mais Marc ajoute un autre détail dans cette histoire que Matthieu et Luc n'ont pas souligné. Verset 38. J'aime bien cette dernière partie. Marc écrit, « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » Ne t'inquiètes-tu pas, Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions. Alors, on pourrait citer son amène concordant, Jean 3, 16, hein? « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Mais je suis venu pour ça, les gars. Hein? Pour vous empêcher de périr. Hein? Il aurait pu leur répondre ça, Jésus. Hein? Frères et sœurs, en 1986, les archéologues ont découvert une barque de pêche qui était enterrée dans la mer de Galilée. Vous avez peut-être vu ça aux nouvelles. Si vous allez en Israël, vous pourrez en principe la voir. Elle a la même taille et la même forme que la barque sur laquelle Jésus est monté. Lorsque vous regardez cette barque, il y a seulement une seule place pour vous protéger des intempéries et pour vous permettre de dormir, et c'est à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière. Non seulement Marc écrit que Jésus dormait à la poupe du bateau, mais qu'il dormait sur un coussin ou, si vous préférez, un genre d'oreiller. Remarquez ce qui va se passer ici. Jésus dit à ses disciples, « Nous allons tous monter dans cette barque et nous allons faire une promenade de nuit sur la mer de Galilée. » Ils montèrent tous dans la barque et Jésus va immédiatement aller dormir à l'arrière du bateau. Frères et sœurs, c'est une question que je vous pose. Pourquoi Jésus était-il tellement en paix, si en paix, alors que tous les disciples paniquaient? C'est une bonne question, non? Parce qu'il se souvenait de quelque chose que les disciples avaient complètement oublié. La raison pour laquelle Jésus était dans une parfaite paix et qu'il pouvait dormir au milieu de cette tempête, c'était parce qu'il savait que Dieu était avec lui et il savait exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Pourquoi devrait-il s'inquiéter? Pourquoi devrait-il avoir peur? Il savait qu'il accomplissait parfaitement la volonté de Dieu pour sa vie. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse, et si ses disciples avaient vraiment compris ce qui se passait, ils se seraient rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de craindre quoi que ce soit quand Jésus est avec eux. Frères et sœurs, vous vous rappelez que si vous êtes né de nouveau, que Jésus habite en vous? Est-ce que vous en rappelez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne plie jamais tout seul. Jésus habite en nous. Quel miracle! L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui habite en nous, en vous et en moi. Lorsque j'ai eu mon cancer, je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'étais tellement en paix, que ma femme pensait que je faisais un déni de ma maladie. Moi, je n'étais pas certain où j'allais, j'en étais convaincu. Convaincu, je savais que si Dieu me prenait, je savais où j'allais. Et je savais que la place où j'allais, c'est encore mieux que la place où j'étais. J'étais dans une paix incroyable. Et ma femme s'énervait. « Non, tu fais un déni de maladie, il faudrait aller voir un psychologue, ça ne va pas. » Je dis, « Écoute, je m'inquiète bien plus pour toi et les enfants que pour moi. Les enfants étaient en bas âge. » Eh bien, le soir même, le Seigneur, il m'a consolé. Vous savez ce qu'il m'a dit? « De la même manière que je me suis occupé de tes enfants quand tu étais vivant, ne t'inquiète pas, je vais être capable de m'en occuper quand tu seras parti, si tu dois partir. » Frères et sœurs, on n'a pas un Dieu. On a un Dieu qui est sur son trône dans le ciel et qui est décidé d'en faire un dans notre cœur pour régner dans nos vies. Et c'est difficile pour lui de toujours régner dans notre vie. Je vais vous poser une autre question. Ce matin, on va laisser tomber la doctrine. Est-ce que vous pensez que c'est... Laquelle des deux vous pensez qu'il est le plus facile pour Dieu? D'avoir créé l'univers ou d'amener quelqu'un au Seigneur? D'amener quelqu'un au Seigneur parce que ça lui prend l'autorisation. Si la personne ne dit pas oui, elle est perdue pour l'éternité. Il a besoin de son accord, c'est fort, ça, hein? Ne traitez-moi pas de pélagien, et ainsi de suite, là, mais réfléchissez. Réfléchissez. Si vous allez à le contraire de ça, ça veut dire que Dieu vous force à l'accepter parce que vous feriez partie des élus. Et ça va plus loin que ça. Je suis d'accord avec John Wesley que si tu n'es pas élu, que tu dois accepter le Seigneur, ce n'est pas le diable qui t'empêche de l'accepter, c'est le Saint-Esprit qui t'empêcherait de l'accepter parce que tu ne fais pas partie des élus. Et John Wesley dit ça, c'est diabolique. Dieu veut que tous parviennent au salut et à la repentance. Tous. Pas tous ceux que Dieu a élus, ça, c'est pas marqué, ça. Que tous parviennent à la repentance et au salut. Tous. Je vous cite des versets. Hein? Là-dessus, vous ne connaîtrez pas ma doctrine, hein? Mais il faut faire attention avec ça. Hein? Je connais un pasteur qui est pour la double prédestination. Il a deux fils. Ils ont accepté le Seigneur. Ils se sont fait baptiser. Ils ont rechuté. Ils sont devenus des braqueurs de banque. Ils sont devenus des vendeurs de drogue. Ils sont maintenant en prison pour plusieurs années. Il essaye de leur prêcher l'Évangile avec la double prédestination, ça veut dire à quoi ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils font partie de ceux qui ont été créés pour aller en enfer. Ils ne veulent même plus entendre l'Évangile. Pour savoir ceux qui sont destinés à aller au ciel, ceux qui sont destinés à l'enfer, ce n'est pas notre problème à nous. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'annoncer l'Évangile. Le reste, c'est son affaire. C'est son affaire. Sinon, vous savez ce qui va arriver? On va choisir à qui est digne d'entendre l'Évangile et qui n'est pas digne d'entendre l'Évangile. Et moi, j'ai vécu ça dans l'armée du salut. J'ai fait un camp de famille avec l'armée du salut et j'étais avec des gens d'un niveau social assez, en tout cas, dans la dernière couche, la société. Et moi, j'évangélisais beaucoup et j'ai dormi dans une baraque. Il y avait plusieurs baraques sur le camp de l'armée du salut, des grandes baraques comme la maison ici. Et là, vu que j'étais officier, pas officier, mais que j'étais invité, on m'a mis avec ces gens-là. Et à un moment donné, le matin, il y a une femme qui s'est levée. Elle avait du poil en dessous des bras. J'ai rien contre les femmes qui ont du poil en dessous des bras. Je suis en train de vous la décrire. Hein? Bon. Parce que ça revient à la mode, apparemment. Donc, mais j'ai rien contre ça. Mais le problème, c'est qu'elle était gentille. Elle était vraiment avenante pour nous. Alors, elle avait une meule de fromage juste en dessous du bras, vous savez, juste ici. Et elle était avec son couteau parce qu'elle se promenait dans l'allée. Qui veut du fromage? Qui veut du fromage? Qui veut du fromage? Bien, cette petite anecdote-là, là, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, écoute bien, Jacques, tu parles beaucoup de moi, mais tu choisis à qui tu parles de moi. Dorénavant, tu vas aller auprès de ces gens-là. Sinon, tu ne feras pas ma volonté. Je t'ai amené dans ce camp pour que tu t'intéresses aussi à ces gens-là, dont personne dans la société s'intéresse. Mais moi, je les aime autant que toi. Et j'ai commencé à travailler. Je suis devenu officier de l'armée du salut pendant 4 ans pour aller voir ces gens-là. Des gens qui partent déjà très désavantagés dans leur vie par rapport à vous. Vous ne savez pas ce que vous vivez, ceux qui sont nés dans... Combien de personnes qui sont nées dans l'Église ici? Ne soyez pas gênés. Allez, levez vos mains, là, que je vois le travail qui a été fait ici là, pendant des siècles. Ah, OK. Vous êtes né dans l'Église, vous êtes allé à l'école du dimanche, vous avez fait les groupes de jeunes, vous avez suivi des cours bibliques, l'étude biblique dans l'Église, vous avez passé par les eaux du baptême, vous avez accepté le Seigneur, vous êtes passé par les eaux du baptême, et vous avez acquis un poste dans l'Église. Frères et sœurs, quand on va voir des gens, là, des assistés sociaux, là, hein, que le petit garçon est rendu à son... Il n'a jamais connu son père, il est rendu à son troisième beau-père, il voit la mère qui rentre, il y a des hommes qui rentrent, qui sortent dans la maison... Vous êtes parti d'ici dans la société, hein? Lui, il est là. Hein? Lui, il est là. Lui, c'est un bas de gamme avec qui on va devoir vraiment, vraiment annoncer l'Évangile, vraiment lui parler de l'amour du Seigneur, mais lui parler aussi qu'il est perdu, hein? Comme tout le monde. Mais regardez son arrière-plan, c'est important. D'où tu sors, d'où tu viens, c'est important qu'on se rappelle de ça. Frères et sœurs, on est favorisés. On est favorisés, frères et sœurs. Vous êtes nés dans l'Église. Moi, je ne suis pas né dans l'Église. Hein. Moi, j'étais un produit brut du monde. Et le Seigneur, il continue à travailler sa vie. Il est patient avec moi. Hein. Il est patient. Mais frères et sœurs, les gens, quand ils viennent à l'Église le dimanche matin, est-ce qu'ils viennent pour avoir un tête-à-tête? Est-ce que vous venez pour avoir un tête-à-tête avec Dieu le matin? Non. Le dimanche matin, Dieu vous invite ici pour avoir un cœur à cœur avec vous. C'est à votre cœur qu'il veut vous parler. Voyez-vous, j'ai fait un message, le Seigneur, c'est toujours à peu près comme ça. Le Seigneur, il me fait dériver un peu parce qu'il me parle. Je ressens quelque chose dans votre assemblée, c'est tout. Et je vous parle avec mon cœur. Et si je ne vous parle pas avec mon cœur, bien, le message, je vais le trouver. Dieu, c'est notre cœur qui veut. C'est notre cœur qui veut atteindre. Es-tu dans des tempêtes ce matin? Vis-tu des affaires difficiles? Es-tu prêt qu'un péché ce matin? Prends un rendez-vous avec le Seigneur. Humilie-toi dans ta chambre. Dis, Seigneur, traite-moi pas comme je le mérite. Parce que si je le méritais, tu me ferais disparaître de la carte. Et Seigneur, je viens auprès de toi, je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande d'utiliser de ta grâce envers moi, de ta patience envers moi. Voici le péché que j'ai, Seigneur. Le péché dans lequel je suis esclave, je te demande de m'en délivrer. Délivre-moi, Seigneur, de ce péché. Et frères et sœurs, je vais raconter une petite anecdote. Hein. Je ne sais pas où on va se rendre, là. Ouf! Oh. Je ne sais pas si je vous ai parlé d'une conversion qui a eu à l'Église lors d'une conférence il y a 3 ans. La dame, elle a à peu près 55 ans. Et on fait un appel, la dame, elle lève la main, donc c'est la seule qui lève la main, donc après la réunion, je vais la chercher. J'ai dit, écoutez, j'ai vu que vous aviez levé la main, vous voulez qu'on prenne un petit temps ensemble? Elle me dit, oui, on descend au sous-sol, on va prendre un café. Et elle a la chaise comme ça, moi, j'ai juste à côté de moi, et j'ai dit, vous savez ce que vous avez fait? Elle dit, oui, j'ai pris une décision pour Dieu, j'ai accepté de recevoir Jésus dans ma vie. OK. Mais elle dit, je ne sais pas si le Seigneur va accepter de me recevoir. Ah! J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je ne veux pas blesser personne, hein, je vous dis simplement ce qui s'est passé. Bien, parce que je suis une alcoolique. Ah! C'est bien hein, qu'elle sorte ça déjà le premier soir. Ah ouais. J'ai dit, si vous êtes une alcoolique, moi, je ne peux pas vous aider. Vous pouvez suivre une thérapie parce que c'est une maladie, l'alcoolisme. Mais j'ai dit, par contre, si vous êtes prête à avouer que vous êtes une ivrogne, là, je peux vous dire que l'ivrognerie, c'est un péché dans la Bible, et là, je peux vous aider. Ah ouais? J'ai dit, vous choisissez, moi, je voulais choisir. Hein. Qu'est-ce que vous êtes? Ben, je suis vraiment une ivrogne. Hein. OK. Alors, on va prier pour ça. Ben, dis, allez, priez. Ah non, moi, je ne prie pas. Hein. C'est pas moi qui ai besoin de délivrer, c'est vous. Hein. Oui, mais je n'ai jamais prié. Pourquoi vous voulez commencer à faire une composition, parler au Seigneur? Vous allez dire ce que vous ressentez. Faut que je fasse attention pour ne pas pleurer. Parce que... J'avais l'impression d'entendre un enfant de 5 ans prier. Complètement délivré. Seigneur, je ne te connais pas. Je t'ai jamais prié. Je ne sais même pas comment prier. Je ne sais même pas si les mots qui sortent de ma bouche sont corrects. Mais Seigneur, je suis une ivrogne. J'ai un péché avec ça. Et Seigneur, je ne suis pas capable de m'en débarrasser par moi-même. Et comme le pasteur m'a dit, Seigneur, ben, je te parle pour que tu me délivres. Ça fait 3 ans qu'elle ne voit plus. Elle va raconter son passé maintenant. Elle avait tellement barre de vie. Au centre-ville de Liège, à 9-10 heures le soir, 70 km/h, flambait les rouges. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que quelqu'un passe dans l'autre sens pour la frapper puis la tuer. Elle flambait les stops. Elle pantait ses trottoirs avec sa voiture. Elle était complètement pétée. Et cette femme-là, elle a connu la grâce du Seigneur. Et cette femme-là, elle amène des gens à l'Église. Des gens viennent en baptiser une il y a à peu près 2 mois. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. C'est ça, je ne veux pas insulter personne. Hein? On se parle cœur à cœur. Hein? Comment est-il possible que Dieu ne réponde pas toujours aux prières, ne réponde pas souvent aux prières des chrétiens, mais qu'il réponde aux prières des non-chrétiens? Corneille, c'était un non-chrétien. Hein? La Syrophénicienne, c'était une non-chrétienne. Hein? Le centurion, c'était un non-chrétien. Hein? Cette femme-là, si je l'avais jugée, j'avais dû lui mettre un pointage, j'avais été théologien, j'aurais peut-être donné une très, très mauvaise note, parce qu'elle n'avait pas utilisé les termes théologiques qu'il fallait. Mais tout est revenu à partir d'ici à là. Qu'est-ce que le Seigneur visait? Le cœur. Et même si on est chrétien depuis des années, il y a encore des choses à changer dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma sœur, et dans mon cœur à moi. Et le Seigneur, il veut simplement qu'on lui raconte, « Seigneur, tu sais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je n'ai pas la relation que je devrais avoir avec toi. » Et tu entends le Seigneur, « Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? » Il essaie de nous tirer les vers du nez si on est capable de confesser ce qui ne va pas. Ce n'est pas à lui de le trouver ici, hein? Mais il faut qu'il en confesse de notre bouche. Frères et sœurs, Dieu ce qu'il veut, hein? C'est une église qui est puissante, qui annonce l'Évangile, qui parle de Jésus-Christ, qui parle de la croix. Quand j'entends des pasteurs qui me disent « c'est pas tout l'Évangile, la croix le dimanche matin », mais mon œil, hein? On a besoin d'entendre continuellement, d'entendre parler de la croix. Continuellement. Le diable, il se réjouit quand on raconte n'importe quoi. Il se réjouit si on ne parle pas de la croix. Même les péchés, même les chrétiens qui ont 30 ans ont besoin d'entendre parler de la croix à chaque dimanche. Frères et sœurs, ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître bizarre, mais permettez-moi de vous dire une autre chose que les disciples n'avaient pas compris. Ils pensaient qu'ils étaient en danger, mais ils n'étaient pas du tout en danger dans la barque. Et vous et moi ne sommes jamais en danger. Non seulement vous n'êtes pas en danger, mais vous vous trouvez à l'endroit le plus sûr du monde. En fait, vous êtes en sécurité dans la barque, en plein milieu de la tempête, que vous pourriez... vous êtes plus en sécurité dans la barque, au plein milieu de la tempête, que vous pourriez être en sécurité sur le rivage, en dehors de la tempête. Quelle en est la raison? C'est parce que Dieu est avec vous. Et c'est ça, sa volonté, que vous soyez dans la barque. Peu importe qui vous êtes, lorsque vous accomplissez parfaitement la volonté de Dieu pour votre vie, vous vous trouvez toujours en l'endroit le plus sûr qui soit. Les disciples n'avaient pas encore compris cela. Voilà pourquoi ils ont dû vivre cette tempête. Et peut-être que vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Et pourtant, c'est la vérité. Vivre en sécurité, ce n'est pas vivre une vie sans problème. Vivre en sécurité, ce n'est pas connaître une vie sans problème. C'est à travers les problèmes qu'on vit, qu'on grandit. Vivre en sécurité, c'est vivre dans la présence de Jésus. Voilà en quoi consiste la vraie sécurité. Conduisez-moi où se trouve Jésus et je serai en sécurité. Et la dernière partie, rapidement, vous devez vous rappeler que vous pouvez compter sur la puissance de Jésus. Rappelez que vous pouvez compter sur sa présence, sur sa promesse, mais aussi sur la puissance de Jésus. Regardez ce qui est écrit au verset 39. « S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus s'est levé. Il n'a pas crié, il ne s'est pas énervé. Il a simplement parlé aux vagues et il leur a dit, « Arrêtez de vous agiter, calmez-vous et allez vous asseoir. » Frères et sœurs, des fois je me demande en lisant ce message, c'est plus difficile à Jésus de nous adresser ce message-là. Arrêtez de vous énerver, arrêtez de vous agiter, asseyez-vous un peu. Les vagues ont obéi. C'est plus difficile pour nous d'obéir à Jésus quand il nous dit ça. Le diable, tout ce qu'il veut faire avec nous, c'est faire de nous des poules sans tête, on s'en va dans n'importe quelle direction, on panique. Et là, on oublie toutes les promesses du Seigneur. Lorsque vous lisez la vie de Jésus, il n'a pas eu une vie de tout repos. Il n'a jamais vraiment navigué dans des eaux calmes, mais il a toujours atterri en toute sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec lui, il savait qu'il pouvait compter sur lui. Quand il arrive sur le bateau de votre vie, il vous dit, et il me dit, « Jacques, tu rencontreras quelques pierres sur ton chemin. Tu vas parfois entendre le vent souffler fort, le tonnerre gronder, la pluie tomber sur ton dos, mais n'aie pas peur, ça va aller. » Nous arrivons ensemble de l'autre côté, tu peux me faire confiance, je vais m'occuper de la tempête qui fait rage autour de ta vie. Frères et sœurs, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchaient de moi, et si la bataille est comme des bêtes féroces, ce sont eux qui vont se retrouver par terre. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Que deviendrais-je? Si je n'avais pas l'assurance d'avoir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Ça, ce n'est pas une parole de Jacques Hudon. C'est une parole du psalmiste dans le psaume 27, versets 1 à 4, verset 13. Donc, remarquez d'ailleurs ce qui est écrit, il ne faut pas rater cela. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Vous avez vu, hein, qui a leur Bible ce matin? Chapitre 5, verset 1. Regardez chapitre 5, verset 1. Et si vous avez un crayon qui ne barbouille pas trop, rajoutez, si vous avez de la place, rajoutez. Regardez, puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le terrain des Gérasséniens. C'est ça qui est marqué, non? C'est ça qui est marqué dans votre Bible. Marqué à côté, comme Jésus l'avait promis. Ils sont arrivés de l'autre côté, dans le territoire des Gérasséniens, comme Jésus l'avait promis. Frères et sœurs, il y a un enseignement qui nous est donné sur la peur, et un deuxième sur la foi, et on va terminer avec ça. Jésus pose une question à ses disciples, une question qu'il pose à certains d'entre vous qui êtes assis dans cette salle et qui traversaient une épreuve ou une tempête ce matin. Avez-vous déjà demandé à Dieu une réponse et que vous avez fini par douter de lui en vous demandant où est Dieu dans ma vie? Pourquoi a-t-il permis que cela m'arrive à moi? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pourquoi il ne fait pas quelque chose pour moi? Et Jésus vous pose alors la même question qu'il a posée à ses disciples. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Je viens de mentionner qu'il y avait deux enseignements à retenir dans cette histoire, un enseignement sur la peur et un enseignement sur la foi. Frères et sœurs, à chaque fois que nous faisons face à une tempête dans notre vie, et cela est valable pour tout le monde, y compris moi, vous allez réagir de deux façons. Vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir de ces deux façons. Vous pouvez faire face à cette tempête en ayant peur ou en ayant la foi. Vous ne pouvez pas faire ou réagir autrement. Et c'est ainsi que vous réagirez à chaque fois. Vous vous dites peut-être, mais quelle est la différence? Eh bien, il y en a une, elle est très simple à comprendre, et elle peut changer votre façon de gérer les tempêtes de votre vie. Vous allez réagir en étant dominé soit par la peur ou par la foi. La peur vous amène à porter vos regards sur la tempête. La foi vous amène à porter vos regards sur le Seigneur qui est encore plus grand que la tempête que vous traversez, celui qui est en contrôle de toutes choses. Quelle différence! Quelle différence! La peur vous amène à fixer vos yeux sur les reproches qui vous sont faits. La foi vous amène à fixer vos yeux sur les paroles que Jésus a prononcées. La peur regarde le diagnostic du médecin qui vous dit « Il est trop tard, il n'y a plus rien à faire pour toi. » La foi regarde à ce que Jésus a dit « Je suis celui qui peut guérir encore aujourd'hui. » La peur regarde la tempête et dit « Je vais périr. » La foi regarde à Jésus et dit « Il est en moi, il me protégera jusqu'au bout. » À chaque fois que vous allez vous retrouver dans une tempête, vous allez réagir en étant dominé soit par la peur, soit par la foi. Et c'est probablement ce qui dérangeait les gens ici, ce qui dérangeait Jésus ici, en voyant le comportement de ses disciples. La raison pour laquelle Jésus va leur poser cette question en deux temps, en tout cas en analysant le texte, c'est ma position, et qui leur dit « Pourquoi avez-vous si peur et pourquoi n'avez-vous pas encore de foi? » C'est parce qu'ils avaient déjà vu Jésus accomplir tellement de miracles. On est au chapitre 4 du livre de Marc. Regardez à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, les miracles que Jésus a fait. Et là, tout de suite, ça bouge. Et il panique. Il panique. Sans penser un seul instant. Et ça, c'est bon à retenir pour vous et moi. Que c'est Jésus qui a provoqué la tempête dans leur vie. Avez-vous déjà pensé, quand vous vivez une tempête dans votre vie, que c'est peut-être le Seigneur qui l'a provoqué? Pour augmenter la mesure de votre foi? Quel Dieu on a? Quel Dieu merveilleux nous avons? Je n'ai pas le temps de faire pour la foi, mais... mais voilà. Le Seigneur, à travers ça, veut nous apprendre à lui faire confiance, peu importe ce qui arrive dans nos vies. Il veut qu'on lui fasse confiance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Désolé d'avoir pris autant de temps ce matin, mais que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir invité et que l'enseignement que nous avons reçu ce matin nous rappelle en tout temps que nous gardions nos yeux fixés sur Jésus du début jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi je suis devant vous, moi, ce matin? Parce que le premier qui m'a témoigné, il m'a donné deux conseils quand il m'a laissé. Garde tes yeux fixés sur Jésus du début jusqu'à la fin et lis ta Bible. Une des lacunes dans nos églises aujourd'hui. Nos chrétiens ne connaissent très, très peu leur Bible. C'est l'épée. Comment peut-on voir les paroles de Jésus nous revenir en surface si on ne connaît pas la parole? Moi, c'est ce qui me sauve, connaître la parole. Et pourtant, je ne suis pas le plus intelligent de la salle ici, moi. Je vous l'ai déjà dit, je pensais dans un message. La seule chose que je ne voulais pas faire dans ma vie, c'est être pasteur. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas le talent, mais Dieu m'a appelé. Mais j'oublie. Mes frères et sœurs, Dieu vous aime. Vous avez un appel sur votre vie. Peut-être pas un appel de pasteur, peut-être pas un appel de diacre, peut-être pas un appel d'ancien, mais vous avez un appel et c'est celui de servir le Seigneur là où il vous est placé. Servir le Seigneur. Être des gens actifs dans l'œuvre du Seigneur. Pas des gens passifs, des gens actifs. Frères et sœurs, quand on nous dit « aimez-vous les uns les autres », ça c'est un message écuménique, hein? « aimez-vous les uns les autres », mais on oublie une chose. Hein? Nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres, comme Dieu voudrait que nous nous aimions, si nous ne sommes pas nés de nouveau, parce que l'amour dont Jésus parle ici, c'est l'amour qui vient d'en haut pour les gens qui sont nés de nouveau, qui sont nés d'en haut. C'est pour ça qu'il dit, les deux commandements qui restent, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que Paul dit dans Romains? Tu accomplis parfaitement la loi. Et cet amour que Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, il vient d'en haut. Il vient d'en haut. Gloire à Dieu pour ça. Et Dieu veut vous ressembler à Jésus. Regardez votre visage. Je n'avais pas de miroir ce matin, c'est dommage. Hein? Vous regardez. Pas possible même que Dieu veut que je ressemble à Jésus. Ben oui, Jean. Ben oui. Que tu regardes tes frères et sœurs là, avec amour. Que tu leur dises que tu les aimes. Pas à ta façon, mais comme Jésus les aime. Que Jésus a payé le prix pour les racheter. Et que s'il devait revenir, il leur fait encore parce qu'il les aime. Et qu'il veut qu'ils passent l'éternité en... Il veut qu'on passe tous l'éternité ensemble. Hey, quel Dieu nous avons, frères et sœurs. Quel Dieu. Quel temps nous perdons dans toutes sortes de domaines de nos vies souvent. Et ça fait plaisir. Et le diable, il tape des mains. Frères et sœurs, le temps est court. Jésus revient bientôt. Que nous puissions agir, non pas réagir comme les disciples, mais que nous puissions demander au Seigneur, augmente la mesure de notre foi, afin que la peur ne nous envahisse pas constamment lorsqu'il y a des tempêtes qui arrivent dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.